Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se tourne ensemble vers un des psaumes les plus beaux, les plus connus aussi, le psaume 19. Typiquement, nous aimons parcourir la Bible livre après livre, verset après verset. Mais en cette période de vacances, nous avons fait exception à cette règle générale où nous concentrons sur différents passages, On a eu aussi beaucoup d'orateurs en notre absence, de personnes qui ont amené la parole et qui étaient libres de choisir leur passage. Donc on continue, on va reprendre les séries probablement dimanche prochain. Et donc j'ai regardé personnellement quelques-uns des grands psaumes de la Bible, 2-3 pour l'instant. Et celui-ci, le psaume 19, c'est... Vous avez peut-être entendu parler du grand écrivain anglais chrétien C.S. Lewis. Il disait que c'était le plus beau des poèmes dans les psaumes et que c'était probablement l'un des chants les plus fantastiques dans l'histoire de l'humanité. Et je vous invite d'abord à le lire ensemble. Je vais vous demander de vous lever. Et on va lire ce beau psaume. Je lis. Au chef de cœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux, pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ces erreurs ? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Et les paroles que nous venons de chanter, fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Éternel mon rocher, toi qui me rachètes. Vous pouvez vous asseoir. Amen. On a chanté, oui, que les mots sur mes lèvres, la méditation de mon cœur te soit agréable. C'est mon vœu, Seigneur, te soit agréable. Mon seul rocher, c'est toi. Ma force n'est qu'en toi. Mon sauveur, mon libérateur, une meilleure traduction serait mon rédempteur. Je veux vivre pour toi, car tu es mort pour moi. Prends ma main, guide-moi, Seigneur, toute ma vie. On l'a chanté, et maintenant, on a le privilège de le voir d'un peu plus près, ce très beau passage. On a ici trois façons dont Dieu se révèle à l'homme. Il se révèle d'abord dans sa création, dans sa nature. C'est les versets 1 à 7 ou 2 à 7. Il y a une petite différence entre les numérotations de la Bible en anglais et de la Bible en français, parce que la Bible en anglais commence au verset 2. Donc si vous ne voyez pas de quoi je veux parler et que vous avez une Bible en anglais, regardez un verset avant ou un verset après, suivant les cas. Et donc, je disais, Dieu se révèle par sa création, c'est les versets 2 à 7. Il se révèle aussi par sa parole, ce sont les versets 8 à 12 dans la Bible en français. Et enfin, il se révèle dans l'expérience de chacun que nous pouvons faire. Ce sont les derniers versets 13 et 15 à 15. Cette dualité de la révélation de Dieu, même cette révélation en trois parties, a toujours fasciné les hommes. Le grand philosophe allemand Emmanuel Kant disait : « Il y a deux choses qui remplissent l'esprit d'admiration et de révérence et qui ne cessent de grandir, les cieux étoilés et la loi morale au-dedans. » Et où il disait encore que ces cieux étoilés et la loi morale rendent témoignage du même Dieu. On est au bénéfice d'une double révélation. C'est ainsi d'ailleurs que Paul commençait son épître aux Romains en disant qu'on était sans excuse parce que Dieu se révèle par sa création et par notre conscience. Nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, c'est non seulement la loi morale dont il va être question, mais toute la loi divine, la parole de Dieu. Et on va méditer un peu sur la révélation de Dieu dans sa création. Il parle du soleil. Le ciel raconte la gloire de Dieu, l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. L'été est propice à ces contemplations nocturnes du ciel. J'espère que vous avez eu des moments pour le faire, parce que dans notre monde moderne, on peut voir ces choses, mais généralement on voit ça sur notre petit écran ou notre téléphone portable. On peut voir il y a des applications gratuites qui vous montrent les étoiles, mais c'est rare qu'on prenne le temps de regarder l'étendue céleste. Et pour moi, ces moments sont toujours des moments privilégiés, où je me sens tout petit et je sens que Dieu est immensément immense. Récemment, on était plusieurs à se retrouver pour voir l'éclipse de la Lune il y a quelques semaines. Et malheureusement, à Nice, c'était très brumeux, on ne voyait pas grand-chose. La plupart des gens qui voulaient prendre des photos ont trouvé les meilleures photos. C'était en photographiant, il y avait un astronome amateur qui avait un bon télescope qu'il projetait sur son écran d'appareil photo. Et on pouvait voir l'écran de son appareil. On voyait vraiment la Lune et on voyait qu'elle s'éclipsait, qu'elle revenait. Et les meilleures photos qu'on a prises, c'était en prenant des photos de son écran. Mais un ciel étoilé, une belle nuit d'été, ça a quelque chose de rassérénant. Ça nous met en paix avec la création et avec Dieu quelque part. Le jour en instruit un autre jour. C'est, encore une fois, c'est un psaume, donc c'est pas un traité de science, même si tout ce que dit la Bible déclare au niveau scientifique, c'est toujours avéré exact. Ici, il y a de toute évidence un langage poétique, Et la poésie, c'est pas quelque chose de superflu. On pense souvent dans notre monde soi-disant rationnel que la poésie, c'est pour les gens un peu bizarres, ceux qui ont un peu justement on dit la tête en l'air, ceux qui font pas face aux réalités. Pourtant, la poésie, c'est une façon de parler au plus profond de notre être. Et là, il a cette très belle façon de dire que chaque jour passe de l'information à la journée suivante, en parlant comme si chaque jour disait à l'autre jour, tu vas voir quand tu vas arriver l'étendue des cieux. Là, il parle de. On pense qu'il contemple le ciel qui se lève, le soleil qui se lève. Et donc, c'est le jour qui dit à l'autre journée, tu vas voir, c'est formidable. Il y a des astres, il y a la beauté de la nature. Puis quand tu vas voir le coucher du soleil, tu vas voir que Dieu est un artiste sans pareil. Et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. S'il n'y avait que le jour, le ciel serait un peu plat. On verrait peut-être la lune à peine. Mais la nuit, justement, quand on peut voir les étoiles, on peut même voir la lueur, la lumière de la galaxie. Nous faisons partie d'une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Et on est sur ce bateau, mais on peut regarder un peu le bateau et on voit un peu la galaxie. Et quand on regarde un peu ce que la science nous a révélé, on a le vertige. Il parle aussi il dit que leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Dans la mythologie antique, dans les anciennes croyances, le soleil était vénéré comme un dieu. Et c'est vrai que le soleil apportait la photosynthèse, donc les plantes croissaient grâce au soleil, ça réchauffait, ça asséchait les marais, c'était quelque chose qui permettait de faire des poteries, on pouvait laisser sécher des poteries en argile au soleil. Donc le soleil avait beaucoup de bénéfices. C'est un des. Pour ceux qui sont amateurs de mots croisés, il y a souvent les lettres RA, le nom égyptien du soleil qui est demandé, parce que deux caractères, RA, ça marche bien dans les mots croisés. Et c'était un dieu, mais ici ce n'est pas un dieu, c'est une création. Dieu lui a fait une chambre où il peut aller se coucher, c'est la nuit. Et la voix de cette révélation, elle est silencieuse. On n'entend pas une voix, sauf peut-être notre voix intérieure, c'est notre conscience, c'est Dieu qui peut nous parler, le Saint-Esprit qui peut nous parler. Mais quand on regarde un coucher de soleil, il n'y a pas une voix qui dit « c'est beau, non ?» C'est silencieux, mais c'est partout sur la terre. Dieu touche tous les hommes par sa révélation, par la nature. Il a encore une fois des images poétiques très belles. Le soleil, il est comme un époux qui sort de sa chambre, qui s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Alors Nancy ne m'a jamais dit que je ressemblais au soleil le matin quand je me levais. Peut-être que Julie le dit à Nathan le matin, il est plus jeune, il doit se lever encore avec plus d'énergie pour aller au travail, pour parcourir sa course. Mais là, c'est intéressant de remarquer que devant les phénomènes qui ont conduit à de la superstition, à des mythologies, la Bible garde les choses à leur juste place. Le soleil aussi grand soit-il, ce n'est qu'une créature de Dieu, une création de Dieu. Il se lève à une extrémité du ciel, il termine sa course à l'autre extrémité, et puis quelque chose que nous avons pu vérifier ces derniers jours, rien n'échappe à sa chaleur. canicule. Si Dieu veut tourner le thermostat, il peut nous épuiser en quelques jours, en quelques nuits. C'est cette fameuse canicule. On n'a pas besoin de télescope, on n'a pas besoin de carte du ciel ou de plus exactement de spectroscope pour être en admiration devant le ciel, devant la qui raconte la gloire de Dieu. Et son étendue nous révèle l'œuvre de ses mains. Vous n'allez pas y échapper, je vais vous donner quand même quelques chiffres. La Terre, 40 000 km de circonférence, 13 000 km de diamètre. Pour s'échapper de son attraction, il faut courir à 11,3 km à la seconde. Et c'est la vitesse des fusées qui emmènent les satellites en orbite. Si vous allez moins vite, vous retombez sur la Terre. C'est l'attraction terrestre. 11,3 km par seconde, c'est la vitesse qui vous permet de retomber, mais un peu plus loin dans le vide. Et comme vous tombez dans le vide, vous continuez à tomber et vous êtes en orbite. C'est vite, 11,3 km, mais c'est rien à côté de la vitesse des astres célestes. La plus grosse planète du système solaire, c'est Jupiter, qui pourrait contenir 1300 terres à l'intérieur. Le Soleil, lui, il a un diamètre qui est 109 fois plus grand que celui de la Terre. Il va à une vitesse, on pourrait mettre 1 300 000 terres à l'intérieur. Pas étonnant qu'il chauffe. Il est en perpétuelle explosion nucléaire thermonucléaire, pardon. Et pourtant, il est prévu de durer 35 000 millions d'années. Donc il perd de sa masse chaque instant, à chaque seconde, mais il va continuer au moins pendant 35 000 millions d'années. Il est à 150 millions de kilomètres de la Terre et on est content qu'il y ait cette distance. La lumière qui vient du Soleil, lorsque vous regardez le Soleil et que vous êtes ébloui, en fait, vous voyez le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes et 30 secondes. C'est le temps que sa lumière met pour nous parvenir. On sait que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Et pourtant, le Soleil, ce n'est pas la plus grande des étoiles de la galaxie. Il y a une des plus grandes étoiles de la galaxie, c'est Betelgeuse, ou Betelgeuse, en anglais on dit Betelgeuse, je crois. Elle a un diamètre de 664 millions de kilomètres. On pourrait mettre la Terre à l'intérieur, tournant autour du Soleil, et resterait encore près de 300 millions de kilomètres pour de libre. Est-ce que ça vous rend tout petit? Est-ce que vos problèmes pâlissent à la comparaison de l'immensité de la création du Créateur? C'est ce que ça devrait faire dans nos cœurs. C'est d'ailleurs le sentiment que le même David exprimait dans le psaume 8 au verset 4 quand il disait « Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Le célèbre écrivain français Pascal exprimait le même sentiment dans ses pensées en disant qu'il était effrayé par le vide des espaces intersidéraux, l'immensité de Dieu sa création et en même temps la petitesse des détails auxquels il s'attache. Il parlait des petites mouches, les cirons, qui ont un système nerveux, des petites ailes qui volent, qui leur permettent de se diriger, d'éviter les raquettes électriques que j'essaye de leur lancer au visage. C'est bon de méditer ces choses-là. Ça remet les choses en place. Ça remet les choses en ordre. Notre galaxie, je ne sais pas si je l'ai noté, mais elle est très longue, elle est très grande. Il faudrait 200, elle fait 200 années-lumière de diamètre. Je traduis même pas en kilomètres parce que ça ne veut plus rien dire tous ces chiffres. Et je vous les donne juste pour vous faire réfléchir un peu. Je vous demanderai pas dimanche prochain de me les redonner. Je les oublie moi-même. Mais tout ça pour dire que notre Dieu est très très grand. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Pour aller au bout, il faut partir tôt, très tôt. C'est intéressant aussi parce que lorsque les scientifiques du siècle, du 19e siècle essentiellement, ont commencé à faire de la haute critique de la parole de Dieu, ils prenaient les aspects scientifiques pour se moquer d'eux. Il disait que cette course du soleil qui se lève le matin comme un époux en pleine forme, qui s'élance pour courir, il disait en fait que le soleil ne bouge pas, c'est la terre qui bouge autour de lui, et pourtant le soleil bouge. C'est très récemment qu'on a pu s'apercevoir, avec les progrès de l'astronomie et des sciences, que le soleil se déplace dans l'espace à la vitesse de 1 million de kilomètres à l'heure. Et que pour finir son circuit, où il se retrouve à peu près à la place de départ, il lui faut 200 millions d'années. C'est grand l'univers. C'est très grand. Et si vous essayez de vous l'imaginer, vous pouvez le multiplier par 1 million et c'est encore plus petit que la réalité. C'est fantastique. L'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Pour lui, c'est rien du tout. C'est comme s'il avait mis tout ça en orbite, en mouvement, avec un chic note de son doigt. C'est ainsi qu'est puissant notre Dieu. Les cieux, le soleil, la nuit, les étoiles. Si cette création est glorieuse et magnifique, encore une fois, il y a la beauté créée par l'homme ou ressortie, remanufacturée par l'homme, parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Le fait qu'un tableau soit beau, que les couleurs soient belles, c'est parce que Dieu nous a permis d'être sensibles aux couleurs, de voir les radiations électromagnétiques dans certaines fréquences donner un jaune orangé, un jaune plus fort, etc. Cette création, elle est non seulement gigantesque, elle est l'œuvre de ses mains, et elle est très belle. Et Dieu révèle sa gloire, les ciels racontent la gloire de Dieu, parce que ça nous montre combien il est impressionnant, combien sa grandeur est impressionnante, combien sa taille, même si nous savons que Dieu est esprit, et souvent la Bible parle de ses mains, la Bible parle de l'œil de Dieu, etc. Ce sont ce qu'on appelle des anthropomorphismes. C'est une façon humaine de parler de choses qui nous dépassent. Mais Dieu est réel. Et en fait, ce que nous voyons, nous en avons parlé en commentant 2 Corinthiens 4, 16 à 18, ce sont des choses temporaires. Les choses réelles sont éternelles. Et les choses réelles, en fait, j'aime bien utiliser, c'est ce que nous voyons comme des choses réelles, c'est en fait du vide qui tourne très vite sur lui-même. La science moderne, la science atomique a permis de réaliser qu'en fait, ce pupitre, c'est du vide qui tourne très vite sur lui-même. Si on comprimait les atomes pour réduire l'espace qui existe entre les électrons et les noyaux, l'Empire State Building, le plus grand building maintenant à New York, après la chute des tours, il y en a peut-être un nouveau en ce moment, mais serait réduit à la taille d'une cerise. Tout ce que vous voyez, c'est du vide. Et si on se demande, mais si c'est que du vide, pourquoi je ne peux pas passer à travers ce pupitre ? Oh ! En fait, c'est parce qu'il y a des champs électromagnétiques qui empêchent cela. Comme un aimant qui retient un autre aimant s'ils sont positionnés avec les pôles opposés ou similaires. Nord repousse nord, sud repousse sud. Et c'est pour ça qu'en fait, pour le scientifique, le fait que Jésus avait un corps qui lui permettait de traverser des murailles, des murs, c'est pas si farfelu que ça. Il suffit de pouvoir arrêter les champs électromagnétiques et nous allons avoir des corps qui vont nous permettre de vivre dans cette dimension. C'est ce que nous promet la Bible, voire 1 Corinthiens 15 et beaucoup d'autres passages. Le ciel montre la gloire de Dieu. Il est glorieux parce qu'il doit être gigantesque pour avoir créé des choses si grandes. Il est glorieux parce qu'il a un génie pour avoir conçu une horloge mécanique qui fonctionne si bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque année, il y a beaucoup de tourments dans le monde, de problèmes, de crises, de déchirements. Et pourtant, Dieu reste tranquille. On peut savoir à l'avance maintenant avec les ordinateurs et les tables astronomiques à quelle heure exactement le soleil va se lever dans 3 mois et 12 jours. Même si Macron ou Trump sont accidentés ou peu importe, ces choses-là sont comme du papier à musique, on dit. C'est réglé mécaniquement. Et Voltaire, le grand athée, disait quand même: je ne peux pas concevoir une horloge sans horloger. La complexité de ces étoiles qui tournent les unes autour des autres, qui s'attirent, qui se repoussent, tout ça c'est... Et puis son génie artistique, il est impressionnant, il est glorieux. Je disais, les choses que l'homme crée peuvent être belles, mais là aussi elles pâlissent en comparaison de la beauté de la nature. Il suffit de voir les fleurs, les champs, les montagnes. Nous avons le privilège de vivre dans une belle région. Il y a ceux qui vivent dans le bassin parisien. C'est plat. Le plat pays. Il y a Montmartre, il y a la Tour Eiffel, mais c'est assez plat. Nous avons le privilège, la chance de vivre dans un pays, dans une région, où il y a toutes les montagnes qui nous disent « Venez voir la gloire de Dieu ». Je vous rappelle qu'on va le faire au début d'octobre pour notre retraite à Saint-Martin-Vésubie. Il est immensément grand, glorieux dans son génie mécanique, mais aussi dans son génie artistique. Et puis dans sa bonté, dans sa gentillesse envers nous, envers tous les hommes. Le soleil se brille, pour les croyants comme pour les non-croyants, pour les bons comme pour le méchant. Mais c'est là qu'on bascule au verset 8. On peut voir la puissance de Dieu dans la nature, dans la création. On peut voir la beauté de Dieu dans la création. Mais il est moins facile de voir l'amour de Dieu dans la création. Je suis amateur des documentaires sur la nature. Souvent, les programmes les plus apaisants, les plus enrichissants. Et on voit justement la beauté de la création dans des endroits formidables. On voit des petits poissons qui nagent dans les atolls. Et puis soudain, on voit un requin qui arrive et qui les avale sans aucun remords, sans aucune pitié. C'est beau, mais on voit la beauté, mais on ne voit pas tellement l'amour de Dieu. Surtout si on est une petite sardine. Et même pour l'homme, nous avons des amis qui viennent de loin, des réfugiés politiques ou économiques qui sont parmi nous. Ils peuvent voir la beauté de la Méditerranée, où ils risquent leur vie, mais en même temps, ils peuvent douter de l'amour de Dieu, même si le soleil brille et nous réchauffe tous. Et c'est là qu'intervient cette deuxième révélation qui est la parole de Dieu. C'est là que nous apprenons que Dieu est un Dieu d'une alliance d'amour. Et c'est intéressant parce que les mots qui sont utilisés dans la première partie où il est question de la gloire de Dieu dans la création, c'est le mot qui est traduit en français par Dieu, donc c'est le mot « El » qui est un mot un peu générique pour parler de Dieu. Il y a aussi le mot « Elohim », mais ce mot « El » c'est vraiment le nom un peu passe-partout. C'est un peu un Dieu impersonnel. Et si vous avez remarqué, on ne parle plus de Dieu à partir du chapitre du verset 8, mais on parle de l'Éternel. L'Éternel, c'est la traduction dans cette version. En anglais, on épelle des fois le nom L-O-R-D, Lord, en majuscule, pour l'opposer à l'autre mot, L ou Elohim, qui est L majuscule O-R-D en minuscule. Mais ce Dieu, c'est le nom qui est représenté en hébreu par le tétragramme. Ce sont les lettres qui veulent signifier, c'est WHWH en quelque sorte, c'est le mot qui veut dire celui qui est, celui qui n'a pas d'autre cause qui l'ont provoqué que lui-même. C'est le mot qu'on traduit par Yahweh ou par Jéhovah, qui a mauvaise résonance à cause d'une secte qui utilise ce nom. Mais il n'y a rien de mauvais dans le mot de Jéhovah. Vous pouvez prier à Jéhovah, à Yahweh. Et il était tellement respecté qu'il n'avait pas indiqué les voyelles. Les scribes hébreux n'avaient pas indiqué les voyelles qui devaient être prononcées. Il y avait juste les quatre consonnes, W, Y, H, W, H. Et ça, c'est ce qu'on appelle des fois le tétragramme. Un signe à quatre lettres, et on a supposé que ça pouvait se dire Yahweh ou Yéhovah, et c'est le nom qui nous a donné le nom de Jésus, en fait. Jésus, ça vient, c'est la version grecque du mot qui veut dire Yéhovah Shua, l'Éternel sauve. C'est le salut de l'Éternel. Alléluia. Et donc, c'est bien de voir que Dieu est tout-puissant, que Dieu est un artiste mille milliards de fois plus génial que Léonard de Vinci ou qui vous voulez. Mais il est important de savoir qu'il est aussi le Dieu de l'Alliance. Lorsqu'il dit qu'il est celui qui est, c'est ce qu'il dit à Moïse lorsque Moïse, à contre-cœur, accepte de lui obéir et d'aller parler de lui à son peuple. il lui dira, mais qui dirais-je, que dirais-je si on me demande qui t'envoie? Et lui dit, tu lui diras, Yahweh, celui qui est en voie, celui qui est Dieu. Et ou alors, une autre traduction, ça pourrait être celui qui devient. Celui qui devient, sous-entendu, tout pour tous vos besoins. Et c'est intéressant de regarder dans l'Ancien Testament, justement, tous les noms associés à Jéhovah, à Jéhovah, à Yahweh. Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Jéhovah Tzidkenu, celui qui est parfaitement juste, moralement impur, moralement pur, parfaitement. Et ainsi de suite. Il est tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Il pourvoit vos besoins. Vous avez besoin d'être pur, il est celui qui peut vous donner cette justice parfaite. C'est ce qu'il fait lorsqu'il nous demande d'accepter le sacrifice de son Fils parfait en échange de nos péchés. Il nous pardonne et il nous donne d'être avec lui pour toujours. Spurgeon, le grand prédicateur anglais du 19e siècle et début du 20e, disait « Jésus et moi, je peux dire, mon Père a écrit à la fois le livre du monde, le livre de la création et le livre de la parole. » Et c'est ce que dit Paul, il dit que nous avons en nous la conscience qui est cette parole que Dieu a mise en chacun de nous, quelque part, mais nous avons besoin de cette parole écrite qui a commencé à être révélée par Moïse avec la Torah jusqu'à l'Apocalypse. Cette révélation complète, l'Apocalypse signifie la révélation, le dévoilement de Jésus-Christ, le dévoilement, Dieu se révèle à l'homme. Quelle merveille! Nous pouvons connaître Dieu. Nous pouvons le connaître non seulement par la beauté de sa création, mais par sa parole. Et là, c'est presque une introduction au grand psaume sur la beauté de la parole de Dieu et tous ses bénéfices pour l'homme, pour l'humanité, le psaume 119. Ici, c'est le psaume 19. Et déjà, il utilise des qualifications glorieuses pour parler de la parole de Dieu. Si vous regardez bien, il est question de la loi de l'Éternel qui est parfaite, du témoignage de l'Éternel qui est vrai, les décrets de l'Éternel qui sont droits, les commandements de l'Éternel qui sont clairs, la crainte de l'Éternel qui est pure et les jugements de l'Éternel qui sont vrais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, peut-être moi-même et peut-être vous-même, on a tendance à trouver que Dieu n'est pas très juste. Mais s'il y a quelqu'un qui est absolument juste, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Nous avons vu quelques décades de vie. L'Éternel a en vue l'éternité. Ce qui nous paraît mauvais peut être très bon au vu de l'éternité. Là aussi, Paul parle de ces choses dans Romains qu'on a terminé d'étudier il n'y a pas très longtemps. La loi de l'Éternel, c'est le terme général qui est parfaite. La Bible est parfaite. Si elle est vraiment la Bible inspirée par Dieu, à partir des textes originaux, il y a des Bibles qui ont été contrefaites. La Bible des témoins de Jéhovah n'a pas été écrite par des spécialistes du grec. Elle a été déformée par rapport aux textes originaux. On n'a pas les textes originaux en notre possession, malheureusement, mais on a beaucoup de copies de ces textes. Et des sciences du langage et des textes ont été développés qui permettent, à partir de plusieurs copies, de retrouver l'original. Et plus il y a de copies, plus on est sûr de la fiabilité du texte qu'on considère comme original. La loi de l'Éternel est parfaite. Et dans chacune de ces six composantes qui qualifient la parole de Dieu, il y a une vérité qui est déclarée, une qualification, une description, et il nous est montré son intérêt. La loi de l'Éternel est parfaite, elle est à même de donner du réconfort. D'autres disent qu'elle peut convertir l'âme, qu'elle peut retourner l'âme vers Dieu et vers la paix. La loi de l'Éternel, c'est aussi une autre façon de dire ces mêmes choses, c'est que ça procure du réconfort. Lorsque vous êtes agité, lorsque vous êtes perplexe, lorsque vous êtes dans le deuil, lorsque vous êtes dans la peine, dans le chagrin le plus profond, regarder la télé ne va pas vous réconforter. Regarder Facebook ou Instagram, où les gens ne mettent que les photos où ils se trouvent pas plutôt bien, de profil, hein, ça ne va pas vous réconforter. Au contraire, ça va vous rendre encore plus malheureux. Pourquoi moi ? Regarde, ils sont tous si heureux, en vacances, dans leur nouvelle voiture, leur nouvelle maison, leurs nouveaux enfants, qui sont parfaits. Et moi qui suis si imparfait, si moche, si fatigué. Non, alors, tournez-vous vers la parole. Tournez-vous dans les psaumes. Tournez-vous aux psaumes. Jusqu'à ce que vous trouviez un passage qui résonne en vous. Parce que dans les psaumes, il y a toutes les émotions humaines sont décrites, sont exprimées, sont vécues. David, lorsqu'il écrivait, ce n'était pas des choses qu'il imaginait, c'était des choses qu'il avait vécues. Il avait été, quand il était berger, il avait été sous la voûte céleste, il avait été émerveillé par les étoiles, par le ciel, par le soleil. Réconfortez-vous dans la parole. Lorsque David, après avoir fait le fou pour se protéger de Saül, s'était retrouvé avec ces hommes qui voulaient le tuer parce qu'ils avaient tout perdu à Ziklag, il est dit qu'il se réconfortait dans l'Éternel. Il méditait sur Dieu, il méditait sur la parole, sur des psaumes qu'il avait déjà peut-être écrits ou d'autres avaient écrits, et ça lui faisait du réconfort. Réconfortez-vous dans la parole de Dieu. Le témoignage de Dieu est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Le témoignage, c'était un lieu de rencontre. Et la parole de Dieu, c'est un lieu où on rencontre l'Éternel. Il nous parle, on peut lui répondre par la prière, par les émotions. Son Saint-Esprit, nous, qui a inspiré la parole, nous la rend vivante au plus profond de nos cœurs. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est véritable, c'est vrai, c'est sûr, c'est ferme, fidèle, confirmé, vérifié. On vit dans un monde de fake news, de fausses nouvelles, de canulars, de mensonges, de publicité. La pub. Qui nous raconte des mensonges à longueur de magazines et à longueur d'interruptions publicitaires, à la télé, au cinéma, sur nos téléphones portables, nos smartphones, pas si smart que ça. Et parce que ce témoignage, cette rencontre avec Dieu, ce qu'il nous déclare est vrai, ta parole est la vérité, dira Jésus. Celui qui demeure en elle ne sera jamais trompé, n'aura jamais honte. Il rend sage celui qui manque d'expérience. On pourrait même traduire, il donne la sagesse aux fous. Certaines traductions parlent du simple. C'est celui qui peut être facilement influencé, celui qui n'a pas fait des hautes études, celui qui n'a pas de dogme, de master, de PhD, de doctorat. Il peut avoir une sagesse qui dépasse celle de ceux qui ont fait toutes ces études. Elle nous met on va voir qu'elle nous donne de l'expérience, où elle nous avertit, elle nous donne de la sagesse, la parole de Dieu. La même parole ni de demander à Dieu la sagesse qu'il la donne abondamment à ceux qui la demandent. Le problème, c'est que bien souvent, et je me compte parmi ceux-là, on pense déjà être sage. On pense déjà avoir raison. Et on ne demande pas souvent à Dieu de nous montrer que peut-être on a tort. C'est une bonne prière. Seigneur, montre-moi si j'ai tort. Nancy me le montre, sans que je lui demande quoi que ce soit. Mais Dieu nous promet que si on lui demande, il va répondre, il va nous montrer. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les décrets, c'est-à-dire les lois, les décisions, les régulations, les choses que Dieu nous demande de faire et de ne pas faire, c'est en plein dans le mille. C'est juste. Ça ne dévie pas à droite ou à gauche, c'est pas tordu. C'est moralement droit. C'est pratiquement droit, et ça réjouit le cœur. Notre être intérieur est encouragé, réjoui. Là aussi, on a l'impression que la loi de Dieu, c'est « fais pas ci, fais pas ça ». Moi aussi, on m'a dit ça, chantait Jacques Dutronc. Mais j'en suis arrivé là. Non. Les décrets, les règlements, les lois de Dieu sont à même de nous procurer la joie, parce que nous allons vivre de façon moralement, pratiquement intelligente, et on va se réjouir des décisions que Dieu nous demande de prendre en vertu de ses décrets. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. C'est le mot mitzvah. Clair, c'est le mot bar. Vous avez peut-être entendu parler de la fête des adolescents juifs, la bar mitzvah. Ça veut dire qu'on devient fils du commandement à l'âge de 13 ans pour les garçons. Pour les filles, c'est des bat mitzvah, on en entend moins parler. Et c'est dès 12 ans qu'elles peuvent être des filles du commandement. Les filles sont plus intelligentes. Elles obéissent plus rapidement. Et blague à part, on le voit dans les résultats scolaires, les filles sont en principe en tête de classe dans les plus petites classes. Après, elles peuvent être aussi très, très fortes, mais il y a les bat mitzvah et les bar mitzvah. Et les commandements de l'Éternel, ils sont clairs. Il n'y a pas à tourner autour du pot, à essayer de dire oui, mais peut-être qu'en fait il nous dit de ne pas vivre que de la parole de Dieu. Ça veut peut-être dire qu'il faut que je vive aussi un peu de péché. Non, c'est vous êtes ce qu'on appelle un sophiste, c'est-à-dire que vous tordez les mots pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, et qu'on vous conforte dans vos opinions, vos désirs de faire le mal. Ils éclairent la vue. Ils sont clairs et ils éclairent nos yeux. La crainte de l'Éternel, c'est aussi communiquée par la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel est pure et elle subsiste pour toujours. Du fait qu'il n'y a pas de pollution, du fait qu'il n'y a pas de choses tordues, il n'y a pas de corruption à long terme. Elle subsiste pour toujours, cette crainte de l'Éternel. Les proverbes nous disent que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Avoir peur de Dieu, de la mort, c'est souvent une façon de réfléchir à ces choses, et c'est là que nous pouvons être touchés par la parole de Dieu, par un témoignage, par un exemple de foi. Elle subsiste pour toujours. Et puis les jugements de l'Éternel, ils sont vrais, ils sont tous justes. C'est intéressant parce que chacun des cinq autres caractéristiques, loi, témoignage, décret, commandement, crainte, avait une conséquence, donnait du réconfort, rendait sage le simple, ils réjouissaient le cœur, ils éclairent la vue, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Point. Sous-entendu, en conséquence, je dois les connaître, je dois les étudier, je dois les méditer, je dois les aimer, je dois les mettre en pratique. Ça, c'est des choses que on ne voit pas, on ne connaît pas lorsqu'on voit un requin manger une sardine, qui était toute tranquille et qui se prélassait dans les lagons ou dans les fonds marins. Et toutes ces choses, elles ont une valeur. Il y a d'abord des qualités et puis leur valeur. Il est très important d'avoir une appréciation appropriée de l'impressionnante majesté de Dieu. On doit devant Dieu ressentir une certaine crainte, pas une crainte qui nous paralyse, mais une crainte qui nous pousse à le respecter, à l'adorer, à vouloir vivre selon ses préceptes. La crainte de l'Éternel, les jugements d'Éternel, ils sont plus précieux que l'or, ces jugements, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus durs que le miel, même le miel qui coule des rayons. Alors on parle des rayons de la ruche, hein, pas des rayons de Leader Price, où le pot de miel se serait cassé. Il nous dit qu'en fait, des choses qui nous attirent dans la vie, qui ont de la valeur à nos yeux, ce sont les plaisirs, les richesses et les plaisirs. Et autour de nous, la plupart des hommes et des femmes vivent pour ces choses, les plaisirs et la richesse. La richesse, l'or, même l'or pur, l'or fin, les commandements, les jugements de Dieu, tout ça c'est plus précieux que l'or. Les expériences que nous pouvons faire des plaisirs de la vie, que ce soit les expériences des sens, les plaisirs des sens, comme du bon miel, un bon gâteau, une bonne glace. C'est en soi, ça n'est pas mauvais. Tous les plaisirs, toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Jacques 2, 17. Si je ne me trompe pas. Ou 1, 17. On va regarder. C'est tout ce qui est bon vient de l'Éternel. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Le Père des Lumières, là encore allusion à la lumière des étoiles, à la lumière dans nos cœurs, celui qui éclaire, celui qui est lumière, celui qui nous demande d'être des lumières, qui réfléchissons sa lumière. Eh bien, tous ces plaisirs, que ce soit aussi même la recherche de la gloire, la recherche de la puissance, tout ça, c'est rien du tout par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la vérité divine. Et on a vu que la gloire de Dieu est révélée dans sa création, dans sa parole. Maintenant, on voit qu'elle est aussi révélée dans l'expérience de l'homme. Elle est révélé dans ma vie, c'était révélé dans la vie de David. Ton serviteur, verset 12, dans la Bible, second 21, ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Ton serviteur est éclairé ou averti, rendu prudent, et celui qui les respecte est déjà récompensé. La récompense est grande. Une récompense qui est supérieure aux richesses, qui est supérieure au plaisir, c'est la bonheur d'une bonne conscience, dont il est souvent question dans la parole, de savoir que le jugement que Dieu porte sur moi est un bon jugement, que je ne fais rien qui soit violemment ou ouvertement contraire à sa volonté, ça nous donne cette paix. Cette paix intérieure qui vaut toutes les richesses, tous les plaisirs. Et quand on en fait l'expérience, on s'aperçoit que c'est vrai. Dans la Genèse, Dieu disait à Abraham qu'il serait sa grande récompense abondante. Genèse 15, 1. Dieu lui-même est notre récompense. Connaître Dieu, savoir qu'on est en harmonie avec lui, ça vaut toutes les villas du monde, tous les comptes en banque offshore que vous pouvez imaginer, tous les yachts avec hélicoptère devant, derrière, sur les côtés dont vous pouvez rêver. C'est ridicule et c'est libérateur parce que nous vivons dans un monde qui veut imposer, qui veut nous conformer, alors que nous devons être transformés par Dieu, renouvelés, renouvellement de notre compréhension, de notre intelligence. Et puis là, il a ces questions, qui discerne ces erreurs ? Pardonne-moi celles que j'ignore. On peut avoir des fautes dont on est bien conscient. Souvent les péchés répétitifs dont on essaie de se débarrasser, sous lesquels on tombe encore une fois devant la tentation. C'est décourageant, mais Dieu peut nous aider à avoir la victoire sur ces péchés. Mais il y a aussi les fautes dont on n'est même pas conscient. Et on peut remercier Dieu aussi de ce qu'il ne nous révèle pas toute l'étendue de notre noirceur d'un seul coup. On serait complètement accablé, anéanti. Mais là aussi, on peut lui demander de pardonner nos fautes qu'on ignore. Pardonne-moi celles que j'ignore. On peut être aveugle à certaines de nos fautes. On peut prendre l'habitude d'être systématiquement en retard. Pour moi, l'heure d'un rendez-vous, c'est l'heure à laquelle je dois franchir la porte. Et je vous demande pardon si vous avez déjà été victime de mon retard. C'est pas grand-chose, mais si tout le monde fait ça, on ne peut plus fonctionner. C'est un manque de respect de l'autre. Dans un couple, on ne le remarque même plus, mais souvent le mari ou la femme, et vice-versa, s'interrompent sans arrêt. Et ça, on ne le remarque pas. Les autres le remarquent. Et « Oh non, je ne veux pas leur parler, ils sont en train de faire du ping-pong. » Et puis, il y a notre fameux esprit français, notre fameux esprit critique. Critique, j'aime pas le mot critique. C'est pas bon, c'est pas beau. Critique. Et qu'est-ce qu'on peut critiquer ? Inconsciemment, sans s'en rendre compte. On pense à quelqu'un et au lieu de remercier Dieu pour toutes leurs qualités, on va dire « Oui, mais elle a un drôle de chapeau. Hein. » Je plaisante. On s'en aperçoit même pas. Ou on cancane. Cancaner, c'est pas aller au festival de Cannes. C'est de médire. Ou de laisser des sous-entendus. Oh oui, il a une belle maison, mais on ne sait pas trop comment l'héritage s'est passé. Avec ses frères et sœurs, il y a eu des disputes. Et puis, il y a un de mes péchés favoris, entre guillemets, la conduite au volant. Vous avez remarqué, pour certains, pour moi, on change de personnalité. Je peux être le plus gentil des hommes, je me vante un peu, mais quand je suis en voiture, je suis le plus méchant des conducteurs. Si quelqu'un me fait une queue de poisson, je réagis. Des fois dangereusement, en faisant une queue de poisson en retour à l'autre. Et j'ai remarqué que lorsque je vois la tête de la personne qui m'a fait une queue de poisson, tout de suite je deviens plus indulgent. Des fois, on voit que c'est une vieille personne qui est là au volant, en train, qui sait pas. Mais on a l'impression qu'on se bat contre des voitures, pas contre des personnes au volant de voitures. Mais ça aussi, c'est un péché qu'on ne peut ne pas voir. Et puis, il dit, préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil. Ça, c'est pour les péchés commis par présomption, avec la fierté de penser qu'on peut résister à certaines tentations, qu'on est plus fort, qu'on sait mieux que les autres, même si on nous a avertis, mis en garde, ou si, c'est encore plus grave, si on fait des provisions pour la chair, entre guillemets, selon l'expression de Paul dans Romains, où on pense au futur plaisir qu'on va avoir à pécher. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et David, qui était le serviteur de Dieu, qui était l'ami de Dieu, comme il est décrit à plusieurs endroits, il demandait de ne pas avoir ce péché de présomption. Qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre. Pas sans péché, mais entier, complet, fini, devant toi. Je ne commettrai pas de grand péché. La grande transgression, il est dit dans certaines versions, et le grand péché pour nous, pour l'homme, c'est de rejeter Jésus-Christ. Nous sommes des pécheurs, Dieu a offert une voie de salut. Si nous refusons cette voie de salut, c'est la plus grande bêtise que nous puissions faire, mais c'est aussi le plus grand péché. Lui qui est mort pour nos péchés, nous le rejetons et nous ne venons pas au bénéfice de son salut. Et puis, cette chanson, ce dernier verset que nous avons chanté, c'est une prière de soumission, de pureté. Ma force, mon rocher, mais les paroles de ma bouche te soient agréables, les sentiments de mon cœur, mes pensées, pas seulement ce que je dis, mais ce que je pense. On peut pas remarquer brièvement en passant qu'il y a une progression du péché qui nous entraîne vers le bas. Ce n'est pas une évolution, ce serait plutôt une dévolution avec le péché. D'abord, on a des erreurs qui nous traversent l'esprit, on a une tentation qui nous vient à l'esprit, on la met de côté. Mais si on persiste, ça devient une pensée volontaire qui peut devenir un objet de méditation qui conduit à l'espérance de pouvoir agir, d'acter ce péché. Oh, ce millefeuille, péché de gourmandise, je prends un péché relativement peu important, mais ça peut être n'importe quel péché. Et puis ça conduit à une action planifiée. Si j'arrive là, si je viens quand il n'y a plus personne et qu'il reste un gâteau, peut-être jusqu'à des occasions qu'on recherche, jusqu'à ce qu'on accomplisse l'action et puis qu'on commence à la répéter. Et on commence à en prendre grand plaisir. On va chercher à ce moment-là de nouvelles façons d'accomplir ce péché. Ça devient une habitude, une idolâtrie qui exige d'être satisfaite, qui conduit à un esclavage impitoyable. Et tout le long, l'Esprit Saint est là qui nous dit stop. Notre conscience est là qui nous dit stop. Paul décrivait aussi dans 1 Corinthiens 10, 13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous puissiez être debout sous la tentation, vous pouviez ne pas céder à la tentation. Chaque fois qu'il y a une tentation, il y a une voie de secours qui nous est offerte par Dieu. Encore, nous faut-il la prendre. Et donc, on voit que les cieux déclarent la gloire de Dieu, les Écritures, la parole déclare la gloire de Dieu, mais ce qui est remarquable, ce qui est incroyable et formidable, c'est que moi, c'est que vous pouvez aussi déclarer la gloire de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce psaume qui nous rappelle ce que tout enfant peut réaliser en voyant la nature, en voyant le ciel, en voyant les étoiles. Ce que nous avons oublié, c'est que tu es glorieux, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es immense, tu es immensément puissant, tu es immensément beau, ta création le révèle. Ton caractère révélé aussi dans ta parole, Seigneur, est parfait. Toutes les instructions que tu nous donnes sont là pour notre bien-être, pour qu'un jour nous puissions comparaître devant toi et que tu puisses nous dire « Bien, fidèle serviteur, tu as été fidèle ». Seigneur, aide-nous à te rendre gloire. Merci pour la gloire que nous voyons dans ta nature, pour la gloire que nous voyons encore plus dans ta parole, parce que nous voyons ton amour, l'alliance, la nouvelle alliance que tu as faite dans le sang de Jésus-Christ, de nous aimer sans réserve, Seigneur. Quoi que nous fassions, mais encore, Seigneur, faut-il que nous acceptions de te rendre gloire en écoutant ce que tu nous dis. Je te prie de continuer à nous émerveiller par ta grandeur, par ta bonté. Aide-nous à méditer ces choses. Aide-nous à être dans l'adoration de la créature devant son Créateur, qui non seulement est tout-puissant, mais éternellement plein de grâce, qui nous aime sans que nous le méritions et qui veut notre bien-être ultime. Seigneur, aide-nous à faire de ces choses des réalités dans nos cœurs, dans nos yeux, dans nos sentiments. Sois glorifié ce matin. Sois glorifié dans la semaine qui s'annonce, Seigneur. Sois béni pour toutes ces choses. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. Et je vais faire appel à votre mémoire. Que les mots sur mes lèvres, la méditation de mon cœur te soient agréables, c'est mon vœu, Seigneur. Mon seul rocher, c'est toi. Ma force n'est qu'en toi. Mon sauveur et mon libérateur, c'est le rédempteur, celui qui peut nous racheter. C'est le mot hébreu Goël. Je vais vivre pour toi, car tu es mort pour moi. Prends ma main et guide-moi, Seigneur, toute ma vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous permette de vivre ces mots. Amen.